On commencera, Dieu voulant, dans quelques semaines, cette série, dans l'évangile de Matthieu, et on va essayer de parcourir l'ensemble. Ça nous prendra peut-être l'éternité, qui sait, mais en tout cas, j'ai hâte de commencer. Mais ce matin, j'avais à cœur de parler d'un autre sujet. Et on a chanté plusieurs fois le fait de s'abandonner à Jésus, d'avoir le Seigneur pour maître, et là, ce dernier chant, je trouve qu'il est une bonne transition. Quelle est ta volonté ? Je veux faire ta volonté. Et il me semble que, je ne sais pas vous, mais je crois qu'une des lacunes dans ma vie, régulièrement, c'est de ne pas poser explicitement la question qui est la suivante. Quelle est ta volonté précise pour tel domaine de ma vie ? Et ce matin, j'aimerais parler d'un domaine qui nous concerne tous, d'une manière ou d'une autre. Il s'agit de la famille. Et je vais ensuite préciser de quel aspect de la famille est-ce que je voudrais parler ce matin. Dieu est le créateur de la famille, c'est lui l'inventeur de la famille, c'est son idée. On le voit parce que dès la Genèse, notre Dieu crée l'homme, il le crée mâle et femelle, et lui donne la consigne de se multiplier et de se répandre. Et en fait, le but de cela, c'est de diffuser l'image de Dieu, et en quelque sorte, de répandre la gloire de Dieu. On le voit aussi dans le chapitre 2, au verset 24, lorsque Adam, après avoir nommé les animaux et avoir été plongé dans un sommeil profond, et que Dieu ait pris une de ses côtes pour façonner la femme, il la voit et dit « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Et Dieu déclare « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. » Et donc la famille, c'est l'idée de Dieu. Ce n'est pas une institution humaine, ce n'est pas un projet d'abord humain. Et pourquoi je précise cela ? Parce que si nous voulons du coup comprendre la vocation de la famille, c'est-à-dire quel est le but de la famille, nous devons donc interroger celui qui en a eu l'idée. Et c'est d'autant plus important que, entre Genèse 1 et 2, et maintenant, il y a Genèse 3, n'est-ce pas ? Le chapitre où nous apprenons la chute de notre race humaine, le premier péché qui nous a plongés, non seulement dans l'éloignement de Dieu, mais dans un brouillard épais concernant ce qu'est l'homme, ce qu'est la vocation de l'humanité, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut. Et le diable sait qu'il a intérêt d'ailleurs à s'attaquer à la conception divine de la famille. Il y aurait mille raisons pour lesquelles le diable voudrait s'attaquer à la famille, mais j'en donne une, la principale. Si nos familles chrétiennes sont dysfonctionnelles, si elles sont, je dirais, préoccupées par autre chose que le plan de Dieu, nous avons donc beaucoup moins d'énergie pour diffuser l'évangile. Nous sommes concentrés, pris par tout un tas de soucis, et parfois légitimes, mais nécessairement cela nous laisse beaucoup moins de temps pour réfléchir au plan plus grand de Dieu, qui dépasse nos familles, mais qui les inclut. Le Seigneur Jésus dit dans l'Évangile, « Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Et j'aimerais dire que si nos familles chrétiennes perdent de leur saveur, où trouvera-t-on dans ce monde ces foyers qui diffusent la lumière et la saveur de Christ ? Et à vrai dire, le bonheur aussi de nos familles, l'épanouissement de nos familles dépend de notre connaissance du plan de Dieu pour nos familles. Pensez à un homme ou à une femme qui a enfin trouvé ce pourquoi il est fait ou ce pourquoi elle est faite. Nécessairement, son quotidien, sa joie va grandir et son quotidien va être modifié puisque enfin, elle a trouvé ce qui lui donne une raison d'être. Et il en va de même pour nos familles. Plus nous nous approchons du plan de Dieu pour nos familles, plus elles sont en mesure de se placer sous la faveur particulière de Dieu. Et dans sa bonté, Dieu ne nous laisse pas ignorants de ce qu'il veut. La parole de Dieu, la Bible, est remplie de commandements, d'exemples, de conseils, de recommandations concernant la famille. Et on pourrait parler de tant de sujets, célibat, mariage, procréation, éducation des enfants et bien d'autres choses. Et il le faudra un jour. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose d'autre. Il s'agit du culte de famille. Je lisais dans un livre l'introduction d'un auteur qui disait que si le culte de famille était un animal, ce serait un animal qu'on considérerait en voie de disparition. Et je suis assez d'accord avec l'image, l'illustration qu'il emploie. Le culte de famille est un animal un peu étrange au XXIe siècle en Occident. Et pourtant, nos prédécesseurs en la foi, pendant des siècles, prenaient cela comme une évidence. Une évidence que nos maisons, comme le disait Josué, serviraient l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et donc mon objectif ce matin, pour jouer carte sur table et être assez transparent, c'est qu'à l'issue de cette prédication, nos foyers où la piété est déjà vécue régulièrement soient encouragés à progresser encore dans cette bonne voie, et que parmi nos foyers où peut-être il y a une négligence dans ce domaine, simplement que nous venions à rectifier, à retourner dans la volonté de Dieu, à nous repentir. Dieu est patient, comme le mentionnait Freddy tout à l'heure, ce qui devrait nous encourager à revenir simplement lorsque nous constatons que nous avons peut-être négligé et dévié de la voie. Je commencerai par montrer le fondement biblique du culte de famille. Il ne s'agit pas simplement d'affirmer que c'est quelque chose à faire. Je veux vous montrer que les Écritures nous l'enseignent. Parce que, je le rappelle, vous le savez, mais vous m'entendrez souvent le dire, Dieu voulant, je ne sais pas combien de temps j'ai à passer avec vous, Dieu le sait, mais souvent je rappellerai que je n'ai aucune autorité, même en tant que pasteur. Ma seule autorité, c'est d'annoncer ce livre, de prêcher ce livre. Si je le prêche droitement, alors du coup, c'est vos consciences qui sont liées devant Dieu. Mais je ne peux absolument rien commander qui ne soit pas en accord avec ce livre. Ok? Je sais que vous le savez, mais je pense qu'il est bon de le rappeler. Un pasteur ne fait pas la pluie et le beau temps, il n'est qu'un haut-parleur de Dieu. En tout cas, il essaye de l'être. Premièrement, donc, le fondement, puis je répondrai à quelques objections qu'on serait peut-être tenté de faire concernant le culte de famille, et je finirai par des encouragements, parce que le but, ce n'est pas simplement de vous parler d'un devoir et de charger les épaules des uns et des autres, mais c'est de nous encourager ensemble à embrasser cette grâce, en fait, de Dieu. C'est une grâce. Premièrement, donc, le fondement. Et j'aimerais vous parler de ce fondement sous trois angles. La création, la rédemption et la mission. Nous devons rendre un culte à Dieu dans nos foyers parce que nous sommes création de Dieu. Nous devons rendre un culte dans nos foyers parce que nous sommes rédimés, la rédemption. Nous avons été rédimés par Dieu, rachetés. Et nous devons rendre un culte, troisièmement, à Dieu parce que nous sommes en mission. Notre création, notre condition de créature, si vous préférez, implique un culte à Dieu dans nos foyers. Puisque nous avons été créés pour la gloire de Dieu et l'adoration de Dieu, et que nos familles, comme je l'ai dit, sont des idées de Dieu, c'est Dieu qui est le concepteur de la famille, il est normal, il est logique qu'au sein de nos foyers, la piété soit vécue. Et une des principales manières de rendre gloire à Dieu, c'est le culte qu'on lui rend, par la prière, par la méditation de sa parole. toujours en lien avec le fait que nous sommes créés, les soins du Créateur envers nous, ses créatures, impliquent logiquement que nous ayons à cœur de lui dire notre gratitude. Quel est le jour où Dieu ne nous a pas fait du bien, ne serait-ce que une fois par journée? Et de ce fait, nous avons des raisons, puisqu'il bénit non seulement chacun de nous individuellement, mais aussi en tant que famille, de lui rendre un culte et de lui dire merci, ensemble, en famille. Les tendresses, les doux nœuds, des affections fraternelles, les relations entre parents et enfants, toutes ces choses, toutes ces joies du foyer nous viennent de Dieu lui-même. Il est celui qui permet ces joies. Je ne suis pas en train de dire que la famille n'est que joie. Je pourrais vous rendre un témoignage assez récent qui vous ferait dire que ma famille n'est pas que joie. Mais ces joies, toutefois, qui existent dans nos familles, elles ont pour source le Dieu de la famille. Et donc, de ce fait, nous avons des raisons de lui dire merci en famille. Et enfin, n'avons-nous pas des besoins? Certes, individuellement, nous avons des besoins, mais en tant que famille, n'avons-nous pas des demandes à adresser à Dieu, des requêtes à lui faire? Souvenez-vous le psaume 127 qui nous dit, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, alors celui qui construit, construit en vain. Et dans l'Ancien Testament, le terme maison désigne assez souvent le bâtiment, mais parfois, et je pense, on pourrait dire plus souvent, désigne la famille. Un exemple, lorsque Dieu s'adresse au roi David, il lui dit, ce n'est pas toi qui me construiras une maison, mais je te bâtirai une maison. Et il parle ici de la dynastie royale des fils de David, de la famille de David. Et donc, si nous voulons voir nos familles être encore plus solides, résister davantage aux intempéries, aux tentations du diable et à l'usure du temps, il nous faut les placer résolument sous la faveur de Dieu, de manière plus intentionnelle. Pensons enfin, et je finis cette première partie, en tout cas cette première sous-partie, pensons enfin à la prière modèle que le Seigneur Jésus nous laisse. C'est une prière qui est, alors on va faire un peu de français le dimanche matin, quelle est la personne, ou plutôt le, oui c'est ça, quelle est la personne qui s'exprime dans cette prière? On s'exprime à quelle personne? Première personne du pluriel, n'est-ce pas? Notre Père, donne-nous aujourd'hui. Et ça implique que du coup, en tant que parents, lorsque nous allons nous présenter devant Dieu pour demander à Dieu sa grâce, pour lui demander le pain d'aujourd'hui, eh bien, implicitement ou indirectement, le Seigneur s'attend à ce que nous prenions avec nous l'ensemble de notre foyer et qu'au nom de notre foyer, nous demandions à Dieu ce dont nous avons besoin. Et une question, quel est le jour, d'après cette prière, où nous n'avons pas besoin de nous adresser à Dieu? Donne-nous aujourd'hui. Jour après jour, il est bon que nous ayons cette piété dans nos foyers. Parce que donc nous sommes créés par Dieu, il est bon que nous soyons en communion avec le Dieu qui a créé nos familles. Notre rédemption, le fait que nous ayons été rachetés. Si vous êtes parents chrétiens ce matin, cela implique que vous devez rendre un culte à Dieu au sein de vos foyers. Nous devons le faire au sein de nos foyers. Ici, je prends pour introduction à ce point la lettre aux Éphésiens. Dans l'épître aux Éphésiens, comme dans chacune de ses épîtres en réalité, l'apôtre Paul commence toujours par quelque chose dans les premiers chapitres. Il commence par rappeler aux chrétiens ce qu'ils ont reçu par grâce, ce qu'ils sont déjà en Jésus-Christ, ce que Dieu a fait pour eux, ce qui ne changera pas parce que Dieu ne renie pas ses dons. Et de quoi s'agit-il? Le pardon des péchés, on l'a chanté ce matin. La vie éternelle, l'adoption, la communion avec Dieu, la réception du Saint-Esprit, des richesses éternelles, spirituelles, d'une suffisance que nous avons beaucoup de peine à mesurer. Et l'apôtre Paul commence par ces chapitres, puis au bout de trois chapitres à peu près, chapitre 4, il commence à dire « À cause de ces choses, à cause du grand salut que vous avez reçu, voilà comment vous devez vivre à présent. » Voilà comment vous devez vivre en Église. On l'a lu aussi dans Colossiens, Paul le fait. Voilà comment vous devez vivre dans vos foyers. Voilà comment vous devez vivre dans le monde en rapport avec les non-croyants. Et dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 4, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles et trouver Éphésiens chapitre 6, verset 4. Nous sommes au milieu de ce que Paul commence à dire au sujet des implications, des conséquences du salut. Il a déjà parlé au chapitre 4 et au début du chapitre 5 des conséquences du salut dans nos relations dans l'Église. Et à la fin du chapitre 5, ou la deuxième moitié en tout cas, il commence à parler des conséquences du salut dans nos familles, dans le foyer. Et nous lisons au verset 4 du chapitre 6, « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Autrement dit, je ne peux pas dire que Christ est entré dans mon cœur et en même temps dire que Christ n'est pas entré dans ma maison. Ou pour le dire autrement, si Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, et le Sauveur de ma vie, je suis en même temps en train de dire qu'il est aussi le Seigneur de ma vie de famille. Si Christ entre dans mon cœur, il est certain qu'il voudra aussi entrer dans ma maison et faire dans ma maison ce qu'il a commencé de faire dans mon cœur. Cette œuvre de grâce, de restauration, de réparation, de pardon, de transformation pour que nous soyons toujours plus proches de notre Dieu. Rapidement, j'aimerais donner quelques précisions sur le sens du verset 4. Vous voyez qu'il y a deux commandements. Un commandement, entre guillemets, négatif, ce que nous ne devons pas faire, et un commandement positif, ce que nous devons faire. Verset 4. N'irritez pas vos enfants. Ou une autre traduction dit, ne provoquez pas vos enfants. Et le commandement positif, ce que nous devons faire, élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Alors ici, quand Paul dit « n'irritez pas vos enfants » ou « ne les provoquez pas », il s'agit en fait, pour nous parents, de ne rien faire qui leur rende difficile l'obéissance, de ne rien faire qui les décourage dans leur responsabilité à eux devant Dieu, qui est « obéissez à vos parents, enfants, honorez vos parents ». C'est les versets qui précèdent. Hein. Verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Et Paul s'adresse tout de suite après aux pères, et au travers des pères aux parents, pour leur dire, votre première responsabilité, c'est de ne mettre aucun obstacle inutile au commandement que vos enfants ont reçu de Dieu, de vous obéir et de vous honorer. Le commandement positif, il dit donc, élevez-les, en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Ici, pour la première partie, cette éducation, le mot grec, c'est un mot qu'on connaît en français. Hein. C'est pédia qui a donné, si vous reconnaissez, pédiatre, pédiatrie, pédagogie. Okay? Et donc, ce terme-là a le sens de cette instruction, cet enseignement, qui n'est pas juste un exemple à montrer, mais un enseignement verbal, un contenu de savoir que l'on doit transmettre avec les corrections nécessaires lorsque ce savoir ou cet enseignement n'est pas forcément compris. Et donc, on doit aider l'enfant à voir la pédagogie, l'enseignement qui vient du Seigneur. C'est ce que l'on trouve, ce terme, dans les Proverbes, notamment chapitre 3, verset 11, lorsque l'auteur des Proverbes dit « Mon fils, ne sois pas découragé lorsque le Seigneur te reprend. Ne rejette pas l'instruction, la correction du Seigneur. » C'est ce sens-là. Okay? On retrouve ce même terme dans Proverbes chapitre 15, verset 5, je vais le lire. Proverbe 15, verset 5. Écoutez bien. Le fou méprise l'instruction de son père. On pourrait dire le fou méprise, pardon, la pédagogie de son père, ce que son père lui enseigne. Mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. La deuxième partie, je reviens donc dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Il nous dit qu'il faut non seulement une instruction, mais aussi des avertissements qui viennent du Seigneur. Ces avertissements, hein, très simplement, il s'agit de mettre en garde l'enfant contre les dangers de dévier de la voie du Seigneur, de dévier du chemin que Dieu veut que nous prenions. Ce n'est pas suffisant de faire connaître à nos enfants ce que Dieu attend de nous. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Nous avons besoin, et nos enfants ont besoin, d'être avertis de ce qu'ils perdent s'ils dévient de cette voie. Ok, mon but n'est pas de faire une exposition très longue et très précise de ce passage, mais simplement de montrer que nous avons ici un commandement clair quant à notre rôle de parents d'instruire explicitement nos enfants. Et puisque le texte le dit, des instructions qui viennent du Seigneur, bah, ça nous donne un programme très clair. Où trouvons-nous les instructions du Seigneur, si, sinon dans sa parole? En conclusion donc, nous sommes encouragés dans nos familles à nous souvenir de celui qui nous a rachetés, pardon, et à lire la parole de Dieu en famille. Excusez-moi. Autrement dit, nos foyers doivent être des écoles où nous apprenons la parole de Dieu. Et en réalité, ce n'est pas que nos enfants, hein, qui sont à l'école quand nous faisons le culte de famille, mais nous aussi, parents. Troisième angle ou troisième facette du fondement pour lequel, ou sur lequel plutôt nous appuyons le fait de promouvoir la piété dans nos familles, c'est la mission. Nos foyers doivent être des lieux où nous rendons un culte à Dieu parce que nous avons été créés par Dieu, nos familles sont des créations de Dieu, mais aussi parce que nous avons été rachetés par Dieu, et enfin, parce que Dieu nous donne une mission. Si vous êtes parents chrétiens ce matin, le Seigneur nous dit de faire de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Mais serait-il logique que nous ayons les regards alertes autour de nous, partout, parcourant le monde entier, et oubliant les premiers, je dirais, destinataires finalement de cette mission, c'est-à-dire nos enfants, qui devraient être oui, les premiers objets de notre discipline, quand je dis discipline, c'est-à-dire le fait de faire des disciples. Ils sont les premiers concernés. Vous le savez certainement, mais je le redis, On ne naît pas chrétien, on le devient. Je connaissais quelqu'un qui aimait bien souvent illustrer ça en disant, ce n'est pas parce que je suis né dans une boulangerie que je suis une baguette. Alors, c'est une manière un peu triviale, mais assez, je trouve, claire et colorée de dire, ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne que je suis chrétien. Et nos enfants, donc, sont les destinataires de cette mission de Dieu, cette mission bonne et bienfaisante d'annoncer les vertus de Jésus-Christ. Et comment peuvent-ils venir au salut si ce n'est par la foi, en invoquant, en faisant appel au Seigneur? Or, d'où vient la foi? Romains 10, qui s'en souvient? Oui, tu peux le dire plus fort, s'il te plaît.
La foi vient de ce qu'on entend.
La foi vient de ce qu'on entend. Et la suite dit.
Ce que l'on entend vient de la parole.
Oui, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un appel donc à la lecture de la parole de Dieu. Et il est dit aussi dans Romains 10 que nous sommes sauvés en faisant appel au Seigneur, en invoquant le Seigneur. Et ici, c'est une manière de désigner la prière. La prière. Et n'avons-nous pas beaucoup à faire d'enseigner justement à nos enfants comment prier, en priant avec eux, en priant régulièrement avec eux? Je termine ce point en mentionnant le fait que vous avez remarqué certainement dans les évangiles, assez souvent, quand quelqu'un voulait suivre Jésus, il lui disait quoi? Non, retourne vers ta famille, dans ta maison, et dis-leur ce que je t'ai fait. Et dans les Actes, nous voyons aussi souvent cet appel, toi et ta famille, toi et ta famille. Ok, quelques objections, pardon, que l'on pourrait faire à la question du culte de famille. Mais juste avant, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que si nous mettons en place une piété de foyer, une piété, comme on disait avant, une piété domestique, c'est-à-dire de la maison, je ne suis pas en train de dire que c'est la garantie du salut de nos enfants. Ok? Mais posons-nous la question. Vaut-il mieux les mettre tout près du Seigneur ou très loin? Sera-t-il plus simple pour eux d'entendre, d'être sensibles, de reconnaître la voix du berger s'ils ont pris l'habitude de l'entendre depuis tout petit ou s'ils l'ont que de temps en temps perçu le dimanche matin à l'école du dimanche et occasionnellement à la maison. Et je crois qu'il est clair, n'est-ce pas, que notre part, c'est de les élever dans la voie du Seigneur et nous laissons au Seigneur faire sa part. Quelqu'un disait ce proverbe dans les proverbes qui dit « Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Il dit, beaucoup de gens qu'il a rencontrés, c'est un pasteur, hein, étaient tiraillés parce qu'ils se demandaient « Mais du coup, est-ce que ça veut dire que si je l'enseigne, il sera forcément chrétien, et comme il ne savait pas bien interpréter ce texte, du coup, beaucoup d'entre eux ne faisaient rien, en disant, je ne sais pas, il n'y a pas de garantie. Et ce pasteur leur répond et leur dit, mais en fait, on peut au moins obéir à la partie de ce verset qui est claire. Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Si je ne comprends pas la deuxième partie, que Dieu m'aide. Mais la première est claire. Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quelques objections qu'on pourrait soulever. Je vais les énoncer brièvement et y répondre aussi brièvement. Il y en a six, il pourrait y en avoir probablement d'autres, vous en avez peut-être certaines en tête. Première objection, ok, frère, tu nous as dit que c'est un commandement, on l'a vu dans Éphésiens, instruisez vos enfants, mais le texte d'Éphésiens ne nous dit pas qu'il faut le faire tous les jours. Alors je réponds, faut-il obéir à Dieu tous les jours ou non? Et ce texte qui est un commandement et qui nous dit d'instruire, il est évident que nous devons le mettre en pratique chaque jour que nous vivons et que nous servons Dieu. Autre réponse que j'apporte à cela, c'est que l'Ancien Testament est sous-entendu dans le texte d'Éphésiens. C'est un résumé. Puisque lorsqu'il s'adresse aux enfants et qu'il leur dit « Enfants, obéissez », il va citer les 10 commandements. « Honore ton père et ta mère ». Autrement dit, dans l'instruction de nos enfants, nous devons en fait plonger nos regards dans tout ce que Dieu nous révèle de sagesse dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais vous lire rapidement un texte dans Deutéronome 6, versets 5 à 9. Le cinquième livre de la Bible, Deutéronome 6, versets 5 à 9. Qui est un texte fondateur, fondamental, pour la pédagogie parentale envers les enfants. Et je commence au verset 5 parce que le verset 5 nous dit quelle est la source de notre instruction. Ce n'est pas simplement un sens du devoir, c'est beaucoup plus profond que cela, il s'agit de l'amour pour Dieu. Je lis, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Il y a ici, en résumé, l'idée de la constance, de la répétition, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras jour après jour. Et je l'ai dit tout à l'heure, et je finis avec cette objection, nous avons chaque jour des raisons de nous approcher de Dieu, pour lui dire merci, pardon, s'il te plaît. Et il me semble que chaque jour, le diable est tout prêt à enseigner nos enfants si nous ne le faisons pas. Je le répète, chaque jour, le diable est tout prêt à enseigner nos enfants si nous ne le faisons pas. Il ne se gênera pas. Et c'est quelque chose de, finalement, assez sérieux quand on y pense. Ne donnons pas la main d'association au diable, ne lui donnons pas le relais. Ça ne veut pas dire que nous ferons tout parfaitement, ça ne veut pas dire que nous réussirons à être des enseignants sans faille, mais prenons au sérieux le fait qu'il y a un combat spirituel. Deuxième objection, ok, je comprends que ça doit se faire tous les jours, mais je n'ai pas le temps. Je réponds très simplement et très rapidement. Nous devons trouver le temps pour les choses que nous considérons importantes. Nous devons trouver le temps pour les choses que nous considérons importantes. Pendant des siècles, les chrétiens, en Europe aussi, et les générations en fait, chrétiennes ou pas, ont travaillé autant que nous, si ce n'est pas plus. Et pourtant, du paysan à l'aristocrate, lorsqu'il y avait une personne convaincue, disciple de Jésus-Christ, les cultes de famille avaient lieu. On trouve du temps si l'on pense que c'est important. Troisième objection. Ok, je suis motivé pour trouver du temps, j'ai compris que c'est un commandement, que c'est quelque chose qui doit se faire tous les jours et que c'est aussi le fruit de l'amour de Dieu pour nous et de notre amour en retour pour Dieu. Mais c'est pas possible. J'ai des enfants en bas âge. Comment faire un culte de famille avec des enfants qui sont prêts à pleurer toutes les 2 minutes si on leur demande un peu de concentration? Et je compatis, parce que je me suis posé la même question, et j'ai aussi lutté, et je ne suis pas le premier. Mais en réalité, là encore, nous avons bien des activités au quotidien pour lesquelles on s'adapte. Et notre Dieu n'est pas Il ne se tient pas prêt à nous, comment on dit, c'est un laser, c'est ça, à nous envoyer un laser s'il y a un peu de bruit, s'il y a un peu de mouvement. Jésus-Christ enseignait les foules et certainement il y avait du bruit. Des familles, des enfants même, qu'on a apportés jusqu'à lui. Il a dit, n'empêchez pas les enfants de venir à moi. Patience donc, persévérance, mais faisons-le. Objection 4. Ok, on est motivé pour le faire, même avec des enfants en bas âge. Le souci, c'est qu'on ne se sent pas capable de le faire, ni ne savons comment le faire. Bien, je propose ici de retenir la règle des 3-1. La règle des 3-1. Qu'est-ce que c'est? Un passage, bref, à lire. Un sujet de prière. Un chant. Bien souvent, ce qui nous décourage dans la piété de foyer, c'est qu'on vise trop haut et on se met un fardeau qui est juste impossible à porter. La piété de foyer, ce n'est pas du tout le culte du dimanche matin. Il ne s'agit pas de faire 5 chants, une prédication, 10 prières. Non, non, nous voulons simplement régulièrement nous replacer devant le Seigneur. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes, pas besoin que ce soit plus long que ça. Mais il nous faut de la régularité. Objection 5, c'est l'avant-dernière. Oui, ok, moi le problème c'est que j'ai pas des enfants en bas âge, j'ai des ados. Et c'est autre chose que des enfants en bas âge. Et je dirais que je compatis, même si je n'ai pas encore des ados, mais c'est un autre domaine, mais ayant été prof au collège, je peux comprendre les challenges que ça peut occasionner. Bah, je dirais plusieurs choses ici pour répondre à cette objection. On dit souvent, on ne peut pas les forcer. Mais chers parents, chers frères et sœurs, vous avez pourtant des règles que vous imposez à vos ados. Et elles sont bonnes. Et vous avez raison. Celle-ci n'est pas illégitime. De demander à nos ados qui restent des enfants de venir s'asseoir 5 minutes simplement pour écouter. Il ne s'agit pas de les forcer à prier. Il ne s'agit pas même de les forcer à lire. Mais de leur rappeler, ok, Léna dit si. Si tu as cette liberté, amen. Mais il s'agit de leur rappeler, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et parce que je t'aime, je veux te montrer que je prends au sérieux le Dieu que je sers. C'est aussi une occasion peut-être de montrer de l'humilité et de dire à nos enfants, si nous avons été négligents, je dis bien si, je ne dis pas que ça a été le cas, mais si nous l'avons été, de montrer de l'humilité et de dire, écoute, c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Et je me rends compte que je ne l'ai pas fait, et même appeler à l'aide en disant, j'ai besoin que tu m'aides là-dessus. Souvent, nous pensons nos ados beaucoup plus rebelles qu'ils ne le sont. Je pense que ce n'est pas forcément le cas ici, et je sais que nous sommes bienveillants, mais ne pensons pas qu'ils soient si réfractaires qu'il soit impossible de les raisonner et de collaborer avec eux. Et c'est une occasion de prier. Dernière objection. Ok, je suis prêt à faire tout ça et à me retrousser les manches et à aller de l'avant, mais juste il y a un problème physique qui n'est pas négligeable. À la fin de la journée, je suis cassé. Je suis trop fatigué. Là encore, je le dis, je compatis pour avoir travaillé un certain temps dans la manutention aussi. Quand on se lève, avant même que je finisse ma phrase, je vois Christophe qui hoche de la tête et je compatis avec mon frère. Quand on se lève à 4-5 heures du matin pour commencer une journée et la finir on ne sait à quelle heure, il est évident, oui, moi, il y a des jours où je rentrais et en fait je disais salut, salut et j'allais me coucher. Mais maintenant, néanmoins, le lendemain matin, Nous voilà fatigués. Il est 4 heures, il est 5 heures, et pourtant nous allons nous lever pour aller au travail. Nous allons nous lever parce que nous voulons honorer nos responsabilités devant notre chef ou devant nos employés. Et je pose la question, est-il normal que nous ayons plus de zèle pour servir nos employés ou nos employeurs que pour servir le Dieu de notre salut? Je termine par des encouragements. Et j'aimerais ici m'adresser... Ça va, vous êtes encore avec moi? Oui. J'aimerais ici m'adresser à différentes situations. Aux pères, aux mères, aux jeunes gens, aux mamans seules et à ceux qui n'ont pas ou plus d'enfants à charge. D'abord, aux pères. Je nous encourage, et je dis bien nous, je suis le premier concerné, à soigner notre relation avec notre épouse. Pierre, l'apôtre, le dit clairement dans son troisième chapitre de sa première épître. Si nous ne soignons pas notre relation avec notre épouse, nous créons des obstacles pour la prière. Il le dit explicitement. Ne vous irritez pas, Marie, contre votre épouse, afin que rien ne fasse obstacle à la prière, autrement dit à la piété. Et on ne trouve aucun texte où il est dit « Femme, ne vous irritez pas envers votre mari », non pas que la femme ne peut pas s'irriter envers son mari, mais qu'il y a peut-être une tendance masculine, que je confesse, à nous aigrir de certaines choses, et du coup, à mettre une situation qui rend difficile le fait de s'approcher et de dire « Venez, nous allons prier ». Je ne sais pas vous, je ne suis pas à ce point spirituel, mais quand je suis irrité, j'ai du mal à inviter ceux qui m'entourent à prier. Père, Marie, soignons la relation avec nos épouses, notre épouse. Et c'est un obstacle qui, du coup, est le principal, je pense, et qui, si on l'enlève, rendra les choses tellement fluide, tellement douce, tellement simple. Aux mères, aux mamans, j'aimerais me faire l'écho de ce que la Bible enseigne. Je ne vais pas être original, mais cette notion de soumission, elle est importante. Il y a quelque chose là aussi de l'ordre de notre création. Nous ne sommes pas dans nos besoins et nos attentes, fait pareil. Et cette soumission, il faut qu'elle soit, je précise, volontaire et joyeuse. Pourquoi? Il n'y a rien de plus décourageant, je pense, pour un mari, pour un homme, pour un père de famille, d'avoir l'impression de devoir tirer son épouse dans ce type d'activité. Parce que je crois qu'il n'y a aucun mari, en réalité, qui aime faire des activités où il sent que son épouse n'est pas vraiment dedans. Et donc, cette soumission, hein, c'est-à-dire le fait de vous mettre aux côtés de votre mari en tant qu'aide, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, où il sent que vous l'encouragez à être le leader spirituel de la famille, à être le principal bienfaiteur de cette famille, oh, vous lui donnez des ailes. Et je ne suis pas en train d'exagérer. Vous pourrez demander à vos époux en rentrant si ça leur donne des ailes quand vous les encouragez. Peut-être que leur pudeur les empêchera de dire oui, mais je suis persuadé que ça leur donne des ailes. Jeunes gens, avant que vous... Je vais le dire rapidement, comme ça, si vous vous saisissez de tomates ou de pommes de terre pour me les lancer, j'aurai le temps d'essayer de les esquiver. Dieu vous donne une seule consigne en ce qui concerne la famille. Obéissez à vos parents. Je vois que ça fait réagir au fond. Mais c'est la seule consigne qu'il donne. Et pourquoi est-ce que je précise que c'est la seule? C'est parce que du coup, finalement, le défi n'est peut-être pas si grand que ce que vous pensez. Il n'est pas si grand que ce que vous pensez. Et cette obéissance, elle est un encouragement à vos parents. Je disais tout à l'heure que le mari a des ailes, mais là vous donnez des ailes à vos deux parents quand ils voient qu'ils n'ont pas à batailler avec vous à chaque fois qu'ils vous demandent quelque chose. Et je sais que vous aimez vos parents, et je sais que vous voulez réjouir leur cœur. Eh bien, voilà une manière. Obéissez à vos parents. Je m'adresse maintenant aux mamans seules et leur donne l'encouragement suivant. Dans votre rôle d'instruire vos enfants, vous êtes entièrement, complètement, totalement légitime. Vous êtes légitime jusqu'au bout. Et ce que vous faites n'est pas en vain. Ce que vous faites n'est pas en vain. Et Dieu lui-même a placé dans sa parole des encouragements pour les sœurs dans votre situation, pour vous. Relisez quand vous aurez le temps la deuxième épître à Timothée, ce jeune pasteur que Paul encourage. Et il lui dit deux choses. Au chapitre 1, il lui dit « Je connais ta foi, Timothée, et je sais d'où elle vient. Elle vient de ta grand-mère et de ta mère. » Timothée était le fils d'un couple mixte. Sa mère était chrétienne. Son père ne l'était pas. Et Paul dit, Timothée, la foi que tu as reçue, je sais de qui tu l'as reçue, d'une femme de valeur. Et Dieu a placé ça dans sa parole pour vous encourager, mes sœurs, à ce que vous réalisiez que vous êtes légitimes et que Dieu est avec vous dans cette tâche qui n'est pas simple. Et enfin, je finis en m'adressant à ceux qui n'ont plus d'enfants à charge ou n'ont pas d'enfants à charge, et simplement vous encourager à prier pour les familles, à vous joindre aux familles. Alors je sais que ça paraît étrange, mais pourquoi pas proposer à l'une ou l'autre famille, est-ce que cette semaine je pourrais passer avec vous et on pourrait chanter ensemble, je voudrais voilà, prier avec vous, lire avec vous la Bible. Et je dirais aussi que vous pouvez accueillir ces familles. Alors, il ne s'agit pas de les accueillir tous les jours, mais pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas parfois à l'hospitalité dans le but de nous retrouver pour des exercices de piété, nous édifier les uns les autres sur notre bonne foi, nous encourager, lutter ensemble, partager. Que notre foi ne se vive pas uniquement le dimanche matin, et je sais ici que je m'adresse à une quasi-totalité qui est consciente de ça et qui le vit déjà. Et donc je suis encouragé quand je vous donne ce message, il n'y a pas dans ma voix un ton de reproche, mais plutôt d'exhortation. Que Dieu nous aide, il a un projet qui est bon pour nos familles, et que nous puissions le mettre en pratique. Je propose de prier.